Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10 sur France Culture, Vivatech, deuxième partie de cette émission ce soir, car au-delà du salon, de ses stands, de ses robots, de ses start-up, Vivatech, c'est aussi une séquence politique pour le gouvernement. Cette année, Tech for Good, l'appel de Christchurch ou encore le G7 du numérique étaient discutés ou au programme. Le tout relevé de nombreux selfies d'élus et d'interviews dans les allées du festival, une sorte de test de popularité au cœur même de la start-up nation en pleine campagne pour les élections européennes. Vivatech 2019, c'est Viva Macron, écrit même le journal L'Obs. Alors on revient sur le bilan de Vivatech ce soir dans le club de la presse numérique, et après Olivier Ezrati, reçu à l'instant au micro de Zoé Svez et qui reste avec nous. Nous sommes avec Sandrine Cassini du journal Le Monde et Vincent Cocasse, journaliste à Libération. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Vivatech, ses forces, ses faiblesses, son succès, point d'interrogation. Bilan 2019, on commence avec vous Sandrine Cassini.
Mais écoutez, je pense que le plus gros succès de Vivatech, en tout cas de Maurice Lévy, c'est d'avoir eu cette idée de génie, c'est de convaincre Emmanuel Macron et ses équipes de créer leur propre événement en amont de Vivatech. C'est-à-dire que Tech for Good, c'est un événement qui est élyséen. C'est le président de la République qui invite tout un tas de sociétés françaises, européennes, américaines à discuter sur l'avenir des technologies, c'est-à-dire comment on met les technologies au service du bien. Et ça se passe la veille de l'ouverture de Vivatech, ça s'est passé mercredi dernier. Et ça, c'est la deuxième année que ça se passe. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des grands patrons qui viennent à Vivatech. C'est pas tellement à l'invitation de Maurice Lévy, c'est surtout à l'invitation d'Emmanuel Macron.
Ouais. Voilà. Donc, deuxième réunion du sommet au Palais de l'Élysée, 80 dirigeants de grands groupes, de start-up, d'associations, des groupes de travail aussi mis en place. Pour quels engagements concrets ?
Bah écoutez, alors c'est toute la difficulté du Tech for Good, c'est-à-dire comment on met les technologies au service du bien. Donc ça, c'est ça peut sembler, le bilan peut sembler un petit peu ténu, et d'autant plus que
impalpable.
C'est la deuxième année. Donc cette année, ils ont plutôt insisté sur qu'est-ce que sont devenus les engagements de l'an dernier. Donc tout ça, dans cette approche, on voit bien que d'une année à l'autre, on cherche un petit peu. Donc IBM s'était engagé à embaucher 1800 personnes, ils en ont embauché, je crois, un millier. Donc premier objectif atteint. Google aussi a annoncé un investissement de 3 millions d'euros. Cette année, l'engagement le plus fort, c'est une quarantaine de sociétés qui s'engagent à féminiser le management, le haut management de leurs équipes. Bon, en termes de bilan, honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit
mieux.
Foufou.
Vivatech, ses forces, ses faiblesses, son succès, bilan 2019. Vincent Cocasse, journaliste à Libération.
Non, mais sur le Tech for Good, même le principe est parfois un petit peu contesté. On a vu par exemple, ça avait déjà fait polémique l'année dernière, mais ça a refait polémique cette année, l'atelier sur le futur du travail qui est présidé par le patron d'Uber. Alors cette année associé au patron d'Orange,
il sait comment ça marche.
Voilà, effectivement. Donc voilà, Uber qui est souvent accusé de contribuer à détricoter le code du travail en choisissant de ne pas salarier ses livreurs. Il y a eu aussi Macron qui a mis à l'honneur la fondatrice de Frichti, qui est cette entreprise de livraison de repas, au moment même où ces derniers jours, ça a été repris notamment dans Libération, un texte d'un livreur Frichti dénonçait le modèle de Frichti sur les conditions de travail. Frichti, il faut savoir que c'était une entreprise française qui s'était justement lancée sur la promesse de mieux traiter ses livreurs, qui étaient tous salariés à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et ce qui est remis en cause par un certain nombre de livreurs.
L'autre grand sujet dans ce contexte de Vivatech cette année, la lutte contre les contenus haineux en ligne. Là, c'est une séquence qui a débuté dès le 10 mai, puisque tout ça s'est fait de manière d'ailleurs assez maligne et à droite, avec un agenda en plusieurs étapes, vous l'avez dit Sandrine Cassini. Une séquence qui a débuté le 10 mai avec la rencontre entre Mark Zuckerberg de Facebook et Emmanuel Macron. Alors là, on est après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Cet appel de Christchurch, la présence de Jacinda Ardern à Paris, la première ministre de Nouvelle-Zélande, les plateformes qui sont mises sous pression, Facebook bien sûr, mais d'autres, les actions qu'on leur propose de faire, qu'elles s'engagent à faire, une réponse qui doit être collective et une charte qui sera, dit-on, dévoilée en août au G7 qui se tiendra à Biarritz. Alors sur ces questions,
alors,
Sandrine
Cassini. Le G7, peut-être pour l'auditeur, effectivement, la France essaye de pousser la création d'une charte pour lutter contre la haine en ligne. Donc la haine, qui est quand même un concept
flou,
large et surtout pas consensuel, puisque aux États-Unis, on n'a pas du tout la même conception de ce que peut être la haine. On est dans une liberté d'expression qui est beaucoup plus totale. Donc c'est plutôt là la France qui essaye de pousser ce concept. Et on ne sait pas vraiment si le G7 à Biarritz donnera un aboutissement à ce projet. Je pense que d'une manière générale, tout ça est une plateforme pour la France et pour Emmanuel Macron à la veille des européennes de pousser, de faire un petit peu de la diplomatie, c'est-à-dire d'essayer d'imposer le modèle français-européen, enfin lui dit européen, mais aussi français, bien sûr, sur la scène internationale. C'est quand même une occasion.
Et aussi entre la Chine et les États-Unis, notamment Vincent Coucas,
oui,
plaidoyer pour une voie européenne.
Il y a Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui était présent aussi à Paris.
Grande star pour le coup du secteur Internet, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Et puis non américaine.
Oui, on a mis en avant peut-être Jack Dorsey de Twitter ou Mark Zuckerberg de Facebook. Mais Jack Ma, c'est le patron d'une des plus grandes entreprise du monde. Et là, on voit qu'effectivement, sur la charte contre la diffusion des contenus haineux, entre la Chine, les États-Unis et la France, ils parlent littéralement des langues différentes, mais même sur le mot de haine, on voit mal aujourd'hui comment la Chine, les États-Unis et la France pourraient se mettre d'accord. Et d'ailleurs, Washington a d'ores et déjà annoncé qu'il ne signerait pas l'appel de Christchurch, même si ils estiment qu'il y a un certain nombre d'avancées dans le texte.
On voit au fond trois internets au moins, et sans doute d'autres, se mettre en place. Un internet, comment dire, libéral, américain, un internet autoritaire, un internet plus régulé, à l'européenne. On va voir comment ces trois-là voisinent dans un univers qui est par définition commun, puisque tout le monde utilise le même internet, Zoé Svez.
Une question peut-être à Olivier Ezrati. On comprend très bien et on entend l'intérêt pour Emmanuel Macron de l'existence de cette fameuse séquence, même si le terme est malheureux, qui est Tech for Good. Comment est-ce que vous comprenez justement l'intérêt des grands entrepreneurs du numérique ou même des plus petits pour ce type d'invitation politique? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher?
Ils font du lobbying
et Macron en fait lui aussi.
Je travaille 15 ans chez Microsoft, donc je connais un peu la mécanique. Hein. Ils font du lobbying pour obtenir la paix dans les pays où ils font des affaires. Et comme la France fait partie des pays avec les Allemands qui sont les plus vocaux sur les questions de vie privée et les questions très sensibles qu'on vient d'évoquer, ils essaient de faire en sorte de calmer le jeu en fait dans les pays où ils sont présents. C'est aussi bête que ça. Alors, évidemment, ils essayent d'avoir une bonne conduite, ils essayent de faire en sorte que l'Internet soit pacifié. Par contre, ça cache quelque chose qui est en creux, qu'on ne voit pas. C'est que les enjeux dans la tech ne concernent pas que des enjeux, je dirais, de la tech for good. Il y a beaucoup d'enjeux technologiques, il y a beaucoup d'enjeux sur les standards. Et là, la France n'est pas très très bonne et le pouvoir politique n'a pas encore compris le rôle que les États doivent jouer dans ce domaine-là. Donc, ça se passe... Par exemple, dans le domaine de la 5G, il y a tout un tas de domaines technologiques où les entreprises françaises sont relativement faibles avec leurs laboratoires de recherche, avec les laboratoires de recherche publics, pour influencer la création des standards mondiaux. Il y a un ambassadeur, dont c'est le rôle, hein, c'est Henri Verdier qui est censé faire ça, mais on n'est pas très très bon là-dedans. Donc on est un peu au niveau de la philosophie, je dirais, la surcouche de l'humain, mais dans les couches basses, on n'est pas assez présent. Et
alors c'est celle
pas encore
qui détermine et qui décide vraiment la technologie.
Alors ce salon de Vivatech a aussi été l'occasion pour le président Emmanuel Macron de prendre la parole sur la scène même de Vivatech. Il y a fait des annonces, si on peut dire, sur la taxation des géants, une concurrence juste dans un cadre loyal, je le cite. Il a mis en garde contre les peurs dites champétériennes, c'est-à-dire au fond, si l'innovation peut détruire de l'emploi, elle peut aussi aider à en créer. Une réaction d'une part Sandrine Cassini puis Vincent Coccaz sur Emmanuel Macron à Vivatech.
Il s'inscrit dans la ligne qu'il avait déjà définie depuis l'année dernière. Je trouve que plus que des annonces, c'était assez incantatoire. On est un peu entre l'incantatoire et le team building. C'est attention, on est fort.
En même temps, c'est assez classique. On se souvient de Jacques Chirac et de François Hollande qui avaient annoncé on va créer un Google français, par exemple.
Oui,
on attend toujours. Donc
voilà,
l'incantation,
c'est toute la limite.
On est habitué.
Tout à fait. Alors, ça a quand même. ça a quand même ses, sûrement ses vertus, puisque à force de se dire qu'on est bon, finalement les gens le croient et on avance.
En tout cas, les Français.
Les Français, finalement, ouais, c'est peut-être ça qui permet de réussir plus que n'importe quelle régulation qui a ses limites. Donc on est quand même beaucoup là-dedans, c'est-à-dire on est fort. On n'est pas nul, on va créer quelque chose d'européen, on va se mettre entre les Américains et les Chinois. Après, honnêtement, si on décortique l'ensemble, si on pose vraiment ce qui va être fait ou ce dont on a besoin d'être, ce qui devrait être fait, bon, c'est plus ténu. Je pense aussi que tout le problème, c'est que est-ce qu'il y a vraiment des recettes pour faire de l'Europe, enfin des recettes rapides, efficaces, pragmatiques pour faire de l'Europe, ou au moins de la France, de l'Allemagne, etc., des champions au même niveau que les États-Unis ou la Chine.
Ça serait, ouais.
Voilà.
C'est
compliqué.
Il y en a, mais Spotify, par exemple.
Voilà, mais l'écosystème a énormément progressé. Aujourd'hui, il y a des grosses levées de fonds, il y a des très belles boîtes, tout ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Mais tout ça, c'est aussi le fruit d'une culture, d'un avancement, etc. Et là-dessus, Emmanuel Macron, il a très peu de prise.
Vincent Caucase.
Oui, non, à l'exception de la loi sur la taxe GAFA, qui va être discutée, je crois, au Sénat mardi et mercredi, et qui sera peut-être une avancée concrète, mais qui ne va pas représenter des sommes qui sont colossales. Et ce n'est pas tellement un enjeu de régulation qu'un enjeu peut-être d'affichage, un enjeu peut-être marginalement fiscal. Tout à l'heure, Frédéric, vous parliez de trois internets. Ça, je pense que c'est la vision positive et optimiste d'Internet. Si on regarde les forces en présence, on est plutôt effectivement en présence de deux Internets. Et c'est pour ça que l'Europe est plutôt sur des positions incantatoires. Et là, je rejoins ce qui a été dit. Il y a d'un côté les GAFAM, les Natou, donc les entreprises américaines, de l'autre les Batix. Et effectivement, à l'exception de quelques boîtes comme Spotify, comme BlaBlaCar en France, etc., elles ne sont pas dans la même sphère,
les BATIX, c'est les Chinois, bien sûr.
Oui, alors, vous nous expliquer. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc, c'est les quatre gros qui sont dans le pendant chinois.
Huawei.
Et on pourrait rajouter le. Oui, on a parlé de la 5G. Et là aussi, on voit que les enjeux, c'est la Chine contre les États-Unis. Et finalement, l'Europe n'a pas forcément son mot à dire.
Sandrine Cassini.
Oui, et si je peux rajouter, quand même, nous, notre solution, enfin, en tout cas, c'est. C'est toujours la solution un peu de la France, c'est-à-dire que nous, on est dans la régulation. Là, tous les discours, c'est autour de la régulation, il faut faire de la régulation. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait de mieux. C'est-à-dire que.
On fait même que ça.
On ne fait même que ça. Et on ne fait même que ça, c'est-à-dire que ces dernières années, on a vu la loi Le Maire, les lois Grand Guillaume sur les taxis, enfin, on multiplie les millefeuilles, de lois, etc. Et de temps en temps, on se tire aussi des balles dans le pied. Par exemple, sur la 5G, là, on va faire passer une loi anti-Huawei. Alors, ça s'appelle pas loi anti-Huawei, dire ça, c'est un gros mot, etc. Mais qu'est-ce que c'est à la fin ? À la fin, ce n'est que recréer de la complexité, alors qu'on devrait développer les réseaux encore plus vite.
Soit les Américains le font aussi sur Huawei, d'une autre manière.
Sauf comment font-ils ? Eux, ils disent, on ne veut pas de Huawei. Alors,
c'est assez clair.
Mais non, mais nous, on a des problèmes de loi sur la concurrence. C'est aussi la raison pour laquelle...
D'accord, mais à la fin, c'est tout le réseau qui va en pâtir.
Alors, au-delà du président de la République, Emmanuel Macron, qu'on a évoqué, c'était aussi un véritable test pour Cédric O, qui était attendu pour son premier Vivatech, le secrétaire d'État chargé du numérique, ancien conseiller d'ailleurs d'Emmanuel Macron chargé du numérique, nommé ministre depuis quelques semaines. De l'avis général, cela semble plutôt réussi, Vincent Caucase?
Non,
ils se passent tous là.
Il y a des mouches.
Personne ne me répond.
Mais
non,
mais quand
fait
on
des
est
mouches.
Sur des exercices de communication comme ça, je trouve que c'est compliqué de dire si c'est réussi ou pas.
Oui,
en tout cas, présence médiatique forte.
Oui, alors il a fait
les échos, l'usine digitale.
Alors il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait la tournée des médias.
Il a fait même des selfies aussi avec Nathalie Loiseau et Marlène Schiappa.
Voilà,
ça suffit à ce que ce soit réussi finalement.
Exactement. Il a fait des petites vidéos dans la voiture avant d'aller à Vivatech. Il a bien appris les éléments de langage. Dans les interviews, il a répété plus ou moins ce qu'a dit Macron sur scène. Bon, il a fait le boulot. Lui, il est aussi nouveau. Il n'est pas nouveau en politique, mais il est nouveau dans l'exercice
comme ministre.
Public, parole communique.
Moi, j'ai pas entendu une proposition nouvelle, quelque chose qui aurait été vraiment apporté par Cédric O, aussi parce que Emmanuel Macron a piloté, a parlé, etc. Et donc forcément,
on voit pas un changement énorme, mais peut-être aussi parce qu'avant, lui-même étant à l'Élysée, conseiller du numérique, c'est lui aussi
qui portait. Je vous suis, le président Macron n'a rien annoncé, Cédric O n'a rien dit.
Mais après, il faut pas sous-estimer non plus
la capacité de la parole, même quand
exactement.
Elle est creuse.
Ouais. Ou alors juste que peut-être que ne pas annoncer une dixième régulation, c'est assez vertueux aussi.
Sur la régulation, je trouve qu'on est un peu dur, parce que parfois aussi on le fait bien. Le RGPD, c'est un exemple où l'Europe a su réguler un secteur qui ne l'était pas. Et aujourd'hui, même quand on lit un certain nombre de choses aux États-Unis, ça peut inspirer, ça peut être un standard qui va rester.
Donc, oui, mais pourquoi faire ?
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au CES, justement, Las Vegas, cette année, le RGPD a pris beaucoup de place, en tout cas dans les discours ?
C'était
dans l'esprit ou pas, Olivier ?
Au CES, j'en ai pas la mémoire.
Ailleurs ?
Non, il y a quelques entreprises qui essayent de toucher le marché européen et d'en parler, mais il faut savoir que le CES, c'est surtout un salon de matériel, donc bon, il n'y a pas beaucoup de logiciels à l'ordre du jour là-bas. C'est Samsung qui mène le bal. Je pense que le sujet, en fait, là, de la position de la France dans ce débat, il néglige un point important qu'on n'a pas encore bien compris, c'est que le numérique a une caractéristique, et que le numérique, c'est un domaine qui se développe via des économies d'échelle. Les économies d'échelle, on les obtient dans des marchés homogènes. Et qui sont les marchés homogènes qui gouvernent le monde aujourd'hui ? C'est les États-Unis et la Chine. Il n'y a pas 36 000 solutions. Je veux dire, l'Europe est un marché fragmenté. Elle le restera pour des raisons...
Par la langue, pour des raisons fiscales.
Pas que ça. Les acteurs ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Enfin, les banques ne sont pas les mêmes. Les télécoms ne sont pas les mêmes.
Télécoms surtout. Ouais.
Tout le monde, dans tous les marchés verticaux, ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc, c'est la réalité géographique du monde d'aujourd'hui. Et quand on croise la géographie et le numérique, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut être des leaders mondiaux, il faut comprendre cette réalité, s'y adapter et créer des leaders dans ces pays-là et donc exporter le plus rapidement possible.
Sandrine Cassini ?
Non, juste sur l'Europe, effectivement, on devait créer un marché unique du numérique depuis longtemps. Et pour aujourd'hui, enfin, c'est au moins depuis Hollande, et aujourd'hui, il est encore inexistant.
Donc, c'est une chimère.
Pas forcément.
Donc,
il y a
plein
de sujets
sur lesquels il faut qu'on aille attaquer la Chine et les États-Unis, sans même essayer d'aller conquérir la Slovaquie ou l'Italie.
C'est les Horaces et les Curias, mais bon, c'est trop lent d'attaquer le marché européen. Beaucoup trop lent.
Merci infiniment à tous les quatre, nombreux invités ce soir. On en reste là. Merci d'avoir été dans ce club de la presse numérique. Sandrine Cassini du journal Le Monde, Vincent Caucase de Libération, Olivier Ezrati qui était resté avec nous dans cette dernière partie d'émission, et vous, Zoé Sfez, comme chaque dimanche. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons cette émission, qui sera d'ailleurs un peu raccourcie à cause des élections européennes, à l'Amérique latine, un sujet tout à fait différent que les élections européennes. On fera un tour politique et aussi culturel de l'Amérique latine, qui change fortement depuis ces derniers mois. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que les matins de France Culture poursuivent leur spéciale élection européenne avec 3 invités politiques demain. Donc dans les matins de France Culture, à ne pas rater. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.